Mes chers amis, bonjour. Ici David et bienvenue à la saison 3 de Quelle Histoire. J'espère que vous avez la pêche. Ça me fait grave, mais de chez grave plaisir de vous retrouver une fois de plus pour cette troisième saison. Avant toute chose, la famille, je vous dis ALP. Je répète ALP, qui veut dire abonnez-vous, likez et partagez. Abonnez-vous pour recevoir les notifications pour les prochains épisodes, likez parce que c'est du bon quand même, et partagez parce que vous êtes sympa. J'espère que vous avez passé un bel été. Après 2 ans de captivité, on a finalement émergé et nous avons pu vivre un peu, à peu près quoi, comme avant. Premier invité de cette nouvelle saison s'est lancée dans le mannequinat à l'âge de 14 ans. Par la suite, elle a été animatrice radio et chroniqueuse TV. Pionnière et leader en body positive sur le territoire belge. Depuis 5 ans, elle est comédienne. Congolaise, à la peau d'ivoire ou Babtou de la RDC, je vous laisse découvrir Vanna Malila, a.k.a. la Barbie quinoise. Alors, comment tu vas, Vanna?
Ben écoute, je suis en pleine forme.
Très bien. Des fois, il suffit d'un mot, d'une phrase ou même d'un regard pour accrocher quelqu'un. Moi, c'est quand ma nièce, shout out à Vanessa, qui m'a demandé de jeter un coup d'œil à ton profil Insta. Et ce que j'ai lu m'a fait exploser de rire. Ça t'avait marqué mannequin en fin de carrière.
Ouais.
Et ça, je me suis dit, la go, elle est trop franche. Et ça, j'aime bien.
Bon, après, je ne suis pas vraiment, vraiment en fin de carrière parce que ça va, j'ai la chance d'avoir de beaux restes.
Donc,
malgré mes cheveux blancs et le fait que je ne suis plus vraiment mannequin grande taille, vu que maintenant, je suis mannequin un peu petite taille, il me reste plus grand-chose. Hein. Donc, c'est ce que j'ai, hein, mais apparemment, ça va, j'ai toujours de quoi être sur le marché. Donc, j'essaie de traîner vers la fin de carrière parce que j'avoue que ça me fatigue un peu.
D'accord.
Le mannequinat, j'ai fait 24 ans et voilà quoi. À un moment donné, tu as envie de. Quand tu sais que tu as d'autres choses à mettre en avant que ta plastique.
D'accord.
À un moment donné, tu as besoin de d'autres challenges quoi. Et là, c'est bon, j'ai déjà assez donné 24 ans, c'est bon. Donc voilà, je le fais encore de temps en temps, mais aujourd'hui, je suis vraiment reconvertie dans la comédie.
Parle-moi de toutes tes facettes raciales, tes origines et tous les mélanges.
Ok. Bon, alors, toutes mes facettes raciales. En fait, je suis Carteronne. Je suis métisse Carteronne. Mmh. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, dans le métissage, il y a toute une diversité. Hein. Mmh. Il y a des gens qui sont métissés à 50%, d'autres à 25-75%, d'autres à 10-90%, voilà. Mmh. Moi, je suis à 25-75%, donc on va dire j'ai 75% de sang blanc et 25% de sang noir.
D'accord.
Mais après, si on me demande quelle est ma culture prédominante, je vais plutôt dire la culture africaine. Donc moi, c'est un mélange Europe-Afrique.
D'accord.
Mais je suis donc, pour aller maintenant, si on va dans mon ADN, hein, s'il faut être précis. Donc, ma mère est de 4 pays. Ses 2 parents déjà sont métis.
Elle
a son papa qui est métis angolais-portugais. Et sa maman qui est métis congolaise-belge. Donc, ça, c'est ma mère, c'est réglé.
D'accord.
Et puis, on va chez mon père. Et mon père est blanc. Et lui, il est français, allemand, grec.
D'accord.
Mais il a les papiers belges, donc voilà. Donc, du coup, en fait, je suis un peu un métis de tout ça. J'essaye de tant bien que mal de savoir qui je suis depuis 38 ans, c'est très compliqué.
Bah, essaye pas de chercher parce que tu es tout ça.
Ouais, voilà, c'est ce que je me dis. J'ai fini par comprendre que je suis tout ça et puis que j'embrasse tout ça. Mais le truc, c'est que après, quand j'ai pas vraiment grandi dans la culture occidentale, étant née à Kine et ayant grandi à Kine et puis ayant grandi en Europe. c'est quand mes parents divorçaient, mais malgré que j'étais en Europe, j'étais dans la famille de ma mère, enfin avec ma mère, et ils ont totalement la mentalité africaine, donc je veux dire, je me suis pas vraiment, il y a pas eu vraiment ce brassage de culture avec les blancs, donc j'ai pas eu l'impression, j'ai pas vraiment été imprégnée par la culture blanche, et c'est ce qui choque souvent les gens en fait, parce que quand ils me voient, ils voient une blanche, et en fait, je suis juste une noire avec de la peinture blanche sur moi, tu vois, c'est un peu ça.
Ouais. D'accord. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, Kin, c'est Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Tu as été introduite dans le monde de la mode en 1997, à l'âge de 14 ans. Et en 2018, tu as fondé Mouvement Curve. Mouvement body positif belge, d'accord, ainsi que la première plateforme de mannequinat body positif en Belgique. Explique-moi un peu cette transition.
Alors, bon, déjà, quand j'ai commencé le mannequinat, quand j'avais 14 ans, j'étais très petite, et puis quand j'étais très mince, et quand tu es une petite jeune mannequin qui n'est pas plus haute que trois pommes, et que bon, voilà, t'es mignonne, mais que voilà, t'as rien d'exceptionnel, on va dire, et tu fais pas 1m72 ou 45 kg, en Belgique, t'as pas 10 millions de contrats. Hein, donc voilà, j'ai eu beaucoup de contrats en tout ce qui est, tout ce qui est commercial, tout ce qui était photos, petits catalogues, des trucs comme ça, mais après, quand il faut défiler et faire les Fashion Week, c'est sûrement pas moi qu'on a l'appelé. Donc, du coup, j'ai dû me retrouver à faire des tas d'autres choses entre temps, à côté. Donc, je faisais toujours du mannequinat, mais voilà, c'était pas la vie de Naomi Campbell. Hein. Donc, à côté de ça, je faisais du théâtre. J'adorais le théâtre. J'ai fait de la danse. J'ai dansé pro. J'avais un groupe de danse. À un moment donné, j'étais même coach de danse, dancehall pour les ados. Après, bon, j'ai fait du striptease, mais bon, on va en parler aujourd'hui. là, c'était dans ma quête de qui je suis sexuellement. Mais bon, c'est pas grave, ça, c'est ça pour un autre épisode. Donc, du coup, après, j'étais passionnée par. J'ai toujours été passionnée par la comédie, en fait. Mais. Et puis, je crois qu'on me trouvait drôle. Et en fait, donc, du coup, ça m'a facilement. Je me suis retrouvée à être chroniqueuse d'émissions radio, télé, par hasard, hein, parce que. Peut-être parce que j'avais de l'humour et que ça plaisait, et que c'est pour ça qu'on voulait m'amener là. Mais c'est vraiment pas quelque chose que j'avais prévu dans ma vie, en fait. Hein. Ça m'est tombé dessus. Et donc, du coup, je trouvais ça assez fun, j'ai saisi les opportunités, je me suis amusée, je me suis éclatée, j'ai appris des tas de trucs et je trouvais ça chouette. Et puis, j'ai découvert que j'avais un certain talent pour la communication. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, tu vois, autant continuer, en attendant, je m'éclate. Et il faut savoir qu'entre temps, à côté de ça, j'ai eu un parcours où. Donc, je sortais d'une histoire. D'amour assez
mouvementé,
d'accord, assez violente même pour dire,
d'accord.
Et donc du coup, j'étais dans une relation abusive avec quelqu'un qui était hyper attiré par les filles qui faisaient 45 mouillées. Alors je n'ai rien contre les filles qui font 45 mille toutes mouillées, je les trouve très mignonnes aussi. C'est juste que moi j'étais pas ça en fait. Et donc du coup, quand t'es avec un homme qui passe son temps à surveiller ce que tu manges et qui te dit que t'es grosse, qu'on te coupe 52 kilos ou que le matin tu manges des œufs au lieu de manger des pommes vertes, qui vient, qui te crie dessus, qui te traite de baleine, qui te dit que t'es moche, t'es en train de grossir, tu te laisses aller, tu te sens hyper dévalorisée. Et puis bon, j'étais aussi abusée physiquement.
D'accord.
Et donc tromper, n'en parlons même pas parce que c'est la base. Hein. mais vraiment, moi, c'était non seulement l'abus psychologique, le fait qu'il voulait tout le temps me faire croire que j'étais un torchon, que je valais que de la merde, et puis le fait que je suis. C'est pour ça que j'ai quitté, parce que j'avais ma fille et que je ne voulais pas que ma fille pense que c'est normal d'être traitée comme un torchon. Je voulais qu'elle sache que les femmes font des diamants, que c'est des êtres précieux, qu'elles méritent d'être chéries, qu'elles méritent de recevoir tout l'amour dont elles ont besoin et d'être nourries comme il faut, je veux dire, pour pouvoir bien se développer et pouvoir évoluer en femme épanouie. Je me suis dit, voilà, tu peux pas faire ça. Je sais que j'étais tellement toxique moi-même que j'aurais pas eu ma fille, je serais restée me tuer avec lui. Un jour, il allait mourir ou j'allais mourir, mais on allait rester ensemble. Hein. Mais comme j'avais ma fille, ça m'a sauvé la vie.
D'accord.
Donc, je me suis barrée pour ma fille. Et puis, en sortant de cette relation, j'étais un vrai torchon. Parce que quand on te répète tous les jours que t'es un torchon et que tu vaux que de la merde, et que même si tu passes la porte, après 3 heures, tu vas revenir en rampant et pleurer pour revenir, parce que sans lui, t'es rien, c'est lui qui t'a fait. Ben, à la fin, quand on te répète ça pendant autant de temps, tu crois vraiment que t'es ça, en fait. Et donc après, quand j'ai quitté cette relation, il m'avait tellement dit que j'étais grosse. Et c'est quelqu'un qui adorait mes longs cheveux. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne me voient pas, qu'en fait, j'ai la boule à zéro. Et la première fois que j'ai rasé ma tête, c'était... c'est quand je suis partie de chez lui. Parce que pour moi, c'était le moment où, en fait, tout ce qu'il m'avait interdit de faire toute ma vie, tout ce qu'il adorait, je ne voulais plus l'être. Je voulais être genre la meuf qu'il allait détester le plus dans sa vie. Tu vois, qu'il allait trouver la plus dégueulasse de sa vie. Comme ça, il n'allait plus jamais revenir chez moi. Et donc, je me suis mise à manger. Et j'étais très triste, j'étais très dépressive, j'étais brisée. Et pour me consoler et en même temps pour me venger un petit peu, je pense, pour l'envoyer chier, ben, je mangeais non-stop. Je suis devenue donc une mangeuse émotionnelle. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai grossi, mais ça m'allait bien en fait. Et les gens, ils kiffaient de ouf. Donc, mais je m'attendais pas en fait à ce que... ça tombe comme ça. Je pensais que c'était juste être une pause qui allait être indésirable et que ça allait être ce qu'on allait me foutre la paix, tu vois. Et ben non, ça a plutôt bien tourné pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2018, je passe un casting par hasard. En fait, je joue un casting, machin, un événement qui se passait à Bruxelles. Et c'est un casting où c'était un défilé body positive. Et je me dis, ça peut être pas mal ce truc, ça a l'air assez sympa, parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà la vague, tu sais, de Ashley Graham, machin, et tout, partout sur les réseaux sociaux, je la trouvais trop belle, et je me disais, waouh, putain, body positive, c'est le truc comme Ashley Graham, ah ouais, ça peut être pas mal, ça ressemble à une carte body positive, bah, peut-être que je pourrais essayer. Et du coup, je me suis dit, mais je vais pas aller toute seule, je vais aller avec ma fille, parce qu'ils aiment, ils avaient dit dans le casting qu'ils aimeraient bien avoir un duo mère-fille. Et je me suis dit, tiens, on va essayer, on va tenter notre chance, hein. On ne sait jamais. Et donc, un jour, donc, je m'étais inscrite et puis on se retrouve avec ma fille dans le métro un dimanche. J'avais complètement oublié, j'avais pas reçu le rappel sur Google, en fait, du casting. Et donc, j'avais complètement zappé. Dimanche, on est là en route pour aller à l'église, on est dans le tram. Et puis, genre, deux arrêts avant l'arrêt de l'ordre du casting, parce que l'église, en fait, elle est au même arrêt que le truc du casting. Je reçois un message ou un truc, un mail de Google, je fais, ah, c'est quoi ce truc et tout, et je vois qu'en fait
c'est le casting.
Je fais, putain, Océane et tout, on avait un casting. Elle me dit, un casting de quoi, maman, c'est quoi cette histoire? Je dis, mais tu vois, juste ici, j'ai vu il y a quelques jours et tout qu'il y avait un casting pour un défilé machin et tout, et on y va. Elle me dit, maman, mais non, on y va pas, on va à l'église. J'ai dit, mais on s'en fout, c'est bon, on va à l'église mon prochain, on y va. Là, j'ai demandé, mais on y va. Et donc, on est à 2 minutes de ce truc de casting, et on monte l'escalator, bam, on arrive là, on fait le casting, et on s'éclate, mais à mort, ma fille et moi, on s'amuse, parce que pour nous, c'était juste un... Moi, dans ma tête, c'était juste un jeu, j'étais sûre qu'on n'allait pas être prise, mais je me suis dit, ça me fait une activité avec la petite, on va s'éclater, on va aller s'amuser là-bas, faire les divas, et puis après, on se barre. Et en fait, on est arrivé, et puis je crois qu'en fait, on s'est tellement marré, on a tellement amusé la galerie, on a tellement fait les connes qu'ils nous ont kiffé, qu'ils nous ont rappelé même pas 3 jours après pour dire qu'on était prises pour être le duo maman-fille de l'édition. D'accord. Et du coup, préparation, on commence à se préparer, machin, un mois de préparatif avant le grand événement. Et ce grand événement débarque, on défile, on se retrouve sur la scène. C'était quoi encore le truc? Bref, j'ai oublié le nom de la salle, mais bon, bref. C'était à Bruxelles. En face de l'hôtel Windsor. Et c'était une grosse salle, hein. C'était fou. C'est la première fois que j'ai défilé devant autant de personnes. Et donc, du coup, au moment où je suis sur la scène, j'ai un truc qu'en fait, c'est ma place et que je dois être sur la scène. J'ai un message à l'intérieur qui me dit, mais en fait, c'est ta place. C'est ici que tu dois être. Et je sais pas, c'est une voix intérieure, je sais pas t'expliquer. Bref, après ça, tu sais, il y a eu toutes les interviews, machin. Ils étaient assez, je sais pas, ils voulaient savoir qui j'étais, machin, moi et ma fille, parce que c'est assez curieux. C'est un duo mère-fille qui défile ensemble, machin. Puis en plus de ça, alors on me demande, est-ce que c'est vous, on me présente en tant que la mannequin body positive du truc. Je dis non, moi je suis la mannequin maman. On me dit non, mais c'est vous la mannequin grande taille. Je dis mais non, je suis pas grande taille, je suis la maman. Il y avait une autre grande taille. Et oui, mais c'était pas pour vous, c'était pas pour vos trucs, mais c'est pas pour vous porter. Mais voilà, c'est juste que vous êtes un petit peu enrobé, on sait pas mauvais, hein. Et, ouais, mais j'étais pas là pour ça en fait, j'étais juste là pour être la maman. Et du coup, après ça, j'ai quelques jours, pendant quelques jours, ça me trotte. Et je me demande, en fait, moi je prie, et donc je demande à mon Dieu de me guider, de me dire, mais c'est quoi ce message que j'ai eu pendant que j'étais sur la scène, que je suis censée être sur la scène et rester là au-dessus, et que j'ai un, en gros, je comprenais que j'ai un message à passer, que j'ai des choses à faire en haut de la scène, et à l'avant, mais pour faire quoi, en fait. Et donc je mets ça en prière, et quelques jours après, j'ai des réponses très claires, qu'en fait, à ce moment-là, je commence à avoir plusieurs offres suite à ce défilé, j'ai plusieurs offres, donc de mannequinat grande taille. Mais jamais en Belgique, parce que le mannequinat grande taille n'est pas développé à ce moment-là en Belgique. Il est développé en France, il est développé en Allemagne, en Hollande, au Canada. Et donc, justement, d'ailleurs, on propose aussi de joindre une agence au Canada. Et je me dis, putain, mais c'est pas possible. Là, il fait tellement froid, t'oublies. Jamais de la vie, je vais pas me lancer pour aller jouer les mannequins grande taille au Canada, quoi. Et je me dis, mais dans toutes ces offres que j'ai là, de joindre des agences internationales... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me barre quelque part avec ma fille? Je recommence tout à zéro, là où je ne connais rien, dans un nouveau domaine, donc le mannequin à grande taille que je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas du tout ce monde. Et je vais arriver là comme la petite nouvelle dans des pays où c'est hyper développé, où en fait j'aurai hyper du retard, tu vois. Et je me dis, ou bien je reste en Belgique et je change les choses. J'impose les mannequins grande taille sur la scène. Et puis j'ai mis un petit peu ça encore une fois en prière, et c'est comme ça que quelques temps après... je contacte 2-3 nanas super chouettes, mannequins grande taille de Belgique, mais qui étaient aussi à des agences à l'étranger en France.
D'accord.
Et je leur dis, les meufs, il y a un truc, je viens d'avoir une illumination, il faut qu'on fasse un bail ici. On ne peut pas laisser les choses comme ça, putain, on passe notre vie à prendre des trains pour aller shooter à l'étranger. Venez, on bouge les choses ici. Et elles m'ont dit, t'es sérieuse, meuf? J'ai dit, oui, très, très. Et donc, du coup, on a commencé à trois. Donc, c'était moi, Farah, Victoria, et puis il y a une Catherine qui est arrivée, Jessica, et puis une cinquième, Pamela. Et puis, en fait, après, on s'est retrouvés, je ne sais même pas dire combien on est à la fin. À la fin, je crois qu'on était plus ou moins 800.
D'accord.
Ouais, mais ça a commencé à trois à la base, quoi. Voilà.
D'accord, waouh.
Donc, du coup, pendant tout le temps, ce qui s'est passé, c'est que... Eh bien, on a commencé à faire des campagnes, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait du boucan. J'ai commencé à travailler comme une malade, à rechercher tous les médias belges, à frapper à toutes les portes. J'ai commencé à organiser beaucoup de partenariats avec des marques de vêtements qui avaient besoin de boost au début. Et puis après, petit à petit, c'est des grosses marques avec lesquelles on a collaboré. Et puis après, petit à petit, on commence à faire des interviews, c'est dans les magazines, on faisait la une. On nous appelait beaucoup sur les plateaux télé, plateaux radio, et au fur et à mesure, avec la presse nous a aidé de ouf. Ils ont fait un travail de malade, et après, c'est tout le monde qui voulait joindre nos parades, parce qu'on faisait donc non seulement les shootings, on faisait du coaching pour la génération plus jeune, parce que vu que c'était un mouvement body positive, c'est un visage. Donc, on avait des mannequins âgés, autant on avait des mannequins de 4 ans, à qui on devait faire du coaching mental, en fait, pour les faire apprendre à apprécier leur corps tel qu'il est, et ne pas le modifier. Et puis, c'était juste une aventure exceptionnelle. C'était super passionnant. J'ai appris des tas de trucs. J'ai donné tellement d'amour. J'ai reçu tellement d'amour en retour. C'est une aventure exceptionnelle. C'est magnifique. Donc, voilà comment j'ai fondé le mouvement Body Positive.
Et après toute cette sensibilisation du mouvement curve, ou en français courbe, pourquoi cette perte de poids?
Ah ouais, alors je t'explique. Ouais, non, mais ça, c'est marrant. C'est la première fois que j'en parle comme ça en interview. Mais c'est super chouette parce qu'en fait, j'ai écrit un livre dessus aussi. Donc, ça me permet d'avoir ma première expérience à en parler vocalement. D'accord. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que je suis mannequin grande taille et que j'ai beaucoup de contrats et que je fais beaucoup de photos et que je suis hyper active sur les réseaux sociaux, j'ai que des messages, ouah, t'es trop belle, t'es une belle grosse, t'es magnifique, nanana, tout ça, c'est une vraie femme. Bon, après, c'est des connards qui me disaient, t'es une grosse baleine, vas-y, barre-toi.
Bon, il y a toujours des gars derrière leur clavier.
Après, c'est clair que quand tu fais ce genre de mouvement, tu le fais pas pour. En fait, ton activisme, mais il n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour les personnes positives qui sont prêtes à le recevoir. Il n'est pas fait pour les ignorants, les cons, les gens qui sont fermés d'esprit. Donc, ceux-là, à la limite, je n'ai pas le temps en fait, pour eux. Je peux prier pour eux, pour que le Seigneur les touche à un moment donné. En fait, au plus tu reçois des messages et des commentaires positifs, Au plus, tu te dis, ah, ben, de toute façon, je suis une belle grosse, je suis trop belle comme ça. Et en fait, tu rentres dans une espèce de zone de confort et tu fais que bouffer encore plus. Donc, tu te retrouves d'abord mannequin grande taille avec une taille 12. Et un jour, tu te réveilles, taille 12, où j'étais plus ou moins, je crois, 84 kilos, un truc comme ça, hein, au début. Mmh. Et puis, tu te réveilles un jour et tu as une taille 18-20. Tu fais 115 kilos. Tu n'arrives plus à marcher, tu n'arrives plus à monter l'escalier. Mmh. Tu ne peux plus mettre de jupe parce que tes cuisses se frottent tellement que tu te blesses les cuisses au milieu.
Ah, d'accord.
Entre les cuisses. Tu ne peux plus faire du sport, t'es essoufflé direct. J'avais des problèmes de dos, donc je me réveillais tous les matins avec le dos mais qui me faisait mes mal, mais de malade. En plus, j'habite au 4e étage, donc je ne sais même pas imaginer. J'avais pitié parce que je montais mes courses 4 étages à pied. Et en fait, je ne savais pas porter mes courses. C'est ma fille qui devait toujours porter les courses parce que moi, après 3 marches, j'étais essoufflée, j'en pouvais plus. Mmh. Donc, j'ai essayé de faire des régimes parce qu'il faut savoir que quand tu es mannequin grande taille, tu es toujours mise sous la pression du poids quand même. Donc, en Belgique, par exemple, vu que mon terrain sur lequel je me développais, c'était... Mmh. Les mannequins taille grande... d'une taille 18 ou 20, donc n'ont pas beaucoup de contrats. Donc, disons qu'ils aiment bien avoir une petite mannequin grande taille dans leur publicité, ok ? Il faut qu'il y ait une petite qui soit légèrement grasse, mais il ne faut pas la nana qui est obèse, quoi. Ils sont
voilà.
Donc, il fallait être juste assez rondelette, mais pas trop, en fait.
Pas trop,
donc, du coup, quand tu es trop comme moi, ce que j'étais devenue, tu n'as plus de contrat. T'en as plus aucun en Belgique. Donc, du coup, à un moment donné, quand j'étais prise pour des. Quand mon agence me disait, voilà, il y a tel truc, il y a un casting qui va arriver à telle date, et ce truc-là, c'est pour toi, ils te veulent absolument, mais meuf, comme ça, ça va pas le faire. Là, t'es en taille 18, sache que dans 2 semaines, tu laisses une taille 14, tu te démerdes. Maximum taille 14 ou 12. Sinon, tu passes pas.
D'accord.
Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, tu fais un régime hyper draconien, un truc hyper agressif. Tu maigris genre de 10 kilos en 2 semaines. Mais c'est grave. Genre, je buvais que de l'eau et de la soupe, quoi. Genre, tu maigris de 10 kilos en 2 semaines. Mais après, ce qui se passe, c'est que dès que tu as fini le contrat...
Tu reprends direct.
Bah, t'en reprends 20. T'as perdu 10 kilos, mais du coup, t'en reprends 20. Et en fait, je faisais que ça. Je faisais que des régimes pour avoir un contrat. Et dès que j'avais le contrat, bah après ça, je reprenais du poids. Et quand je reprenais du poids, bah je reprenais le double. Donc, je me suis dit, à un moment donné, tu fais 85, tu montes à 95. Tu descends, tu fais 95, tu descends à 85. Tu remontes à 105. Tu redescends à 95. Tu remontes à 115. Et puis, tu te dis, à un moment donné, mais la prochaine fois que je vais maigrir, là, c'est pour arriver à combien, à 150 ? Ou c'est quoi le délire, tu vois ? Et donc, du coup, il y a des endroits, il y a des trucs où je m'étais dit dans ma vie, j'allais jamais arriver à 100 kilos. Et ben, j'ai pas compris comment j'y suis vite arrivée parce que quand on est dans cette zone de confort qui très vite devient une zone d'inconfort, parce que être obèse, c'est pas quelque chose d'agréable à vivre. Être mauvais, ça t'amène beaucoup de. Et donc, moi, j'ai vécu toutes les conséquences. Ça veut dire que je faisais de l'hypertension artérielle, je faisais de l'apnée du sommeil. Mon test d'apnée du sommeil avant d'aller me faire opérer. Du bypass, j'avais 76, donc 76 apnées.
Maybe max 50 minutes.
Ok. Ils sont relous, hein. Sorry. Ok. Donc, du coup, en fait, j'étais là, j'étais tellement en train de subir non seulement mon apnée du sommeil, où j'étais à 76 apnées. Pendant sur une nuit, j'avais des problèmes de dos, j'avais des problèmes d'hypertension artérielle, j'avais des problèmes de, comment on dit, les articulations. Et en fait, ça amène que des merdes. Être obèse, ça n'amène que des merdes, on va pas se mentir. J'ai pas plein chat un chien, c'est pas bon pour la santé. Et mal à me débarrasser de tous ces problèmes de santé en maigrissant de manière normale, parce que je me disais maigrir, c'est pour si c'est encore pour tout reprendre après. J'avais déjà tellement fait de yo-yo, j'ai dit non, c'est bon. Là, je suis fatiguée, je vais faire un truc qui est hyper suicidaire, ça va être hyper risqué. Mais parce que j'y pensais déjà 3 ans avant, en fait. J'avais commencé à penser à ça 3 ans avant. mais j'avais jamais eu le courage de le faire. Et puis en même temps, je me trouvais belle, grosse. Donc, je m'aimais bien en grosse. Donc, à faire ce type d'opération, tu vois, je les grade un peu de chair. Donc, du coup, à un moment donné, ben voilà, je passe tous les examens pour faire un bypass gastrique. Et après tous les examens psychologiques, machin, tout ça, ils me disent que c'est bon, qu'on peut m'opérer. Mmh. Donc, je fais cette fameuse opération que ma communauté, les mannequins grande taille, les mannequins body positive et tout le monde que j'avais entraîné dedans ne comprenaient pas. Mmh. Ils se sont dit, mais celle-là, c'est une bipolaire avec un grand B majuscule. Mais, mais non, en fait, c'est pas ça du tout. C'est qu'à un moment donné, et tu sais, ce que les gens ne savent pas, c'est que ça, j'ai mis, je pense, 8 mois. J'ai fait 8 mois de deuil. Tu sais, c'est quoi 8 mois où après ton opération, déjà, t'es malade, t'as super mal, c'est hyper douloureux ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Quand je mange, j'ai mal. Mmh. Pourtant, ça fait plus d'un an et demi que je l'ai fait. Mais les gens ne s'imaginent pas qu'au-delà de la douleur physique, il y a une vraie douleur psychologique quand tu fais une opération comme ça. Mmh. Parce que moi, je ne suis pas la nana qui se détestait. Je suis la nana qui était mannequin grande taille, qui s'adorait, qui, quand elle faisait la une des magazines, elle se trouvait trop belle. J'étais une poupée, en fait. J'étais une vraie poupée ronde. Et j'aimais bien mon image de poupée ronde. Donc, il a fallu que je fasse un deuil. En fait, j'ai pris la décision de tuer la poupée ronde, en fait. C'est vraiment ça. Autant je me trouvais belle quand j'étais à poil devant mon miroir en sortant de ma douche. Mmh. Autant je me trouvais belle quand j'étais toute pimpée pour un travail, pour un shoot ou je sais pas quoi, whatever. Mmh. Autant dans mon quotidien, quand c'était pas que j'étais à poil devant mon miroir ou maquillée, coiffée, machin et tout devant les objectifs, autant mon quotidien était difficile parce que ma vie n'est pas faite que de shooting et j'ai une vraie vie à côté. J'ai un vrai quotidien qui demande des actions. J'ai envie de vivre comme tout le monde en fait. J'ai envie de pouvoir courir, marcher, je sais pas moi, marcher 500 mètres sans être essoufflé. J'ai envie de pouvoir dormir sans avoir mal au dos. J'ai envie de pouvoir dormir sans respirer ou sans devoir ronfler et peut-être m'étouffer si j'ai un mec à côté de moi, tu vois. Il y a des trucs, j'ai envie de pouvoir monter mes courses sans devoir demander à ma fille de les porter parce que je suis incapable de le faire. Merde quoi. Non, c'était trop. Et les gens, je trouve qu'il y a trop d'hypocrisie. Tu vois, c'est bien beau d'être sur les réseaux sociaux à dire oui, je suis une belle ronde, toi aussi, aime-toi, accepte-toi, ronde comme t'es. Mais dis aussi à ces rondes-là de ne pas arriver au niveau où t'es arrivé.
Ah bah c'est clair.
Parce qu'en fait, tu es en train de les encourager à continuer à être de plus en plus grosse et tu es en train de les encourager à se tuer encore plus.
Voilà,
En fait, c'est un suicide passif. Petit à petit, on ne se rend pas compte, on est inconscient et on se lance, on est en train de se tuer à petit feu, tu vois.
D'accord.
Et les gens, ils n'ont pas vraiment saisi le truc, ils ne comprennent pas la différence, ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas ce discernement pour dissocier les deux, tu vois.
Voilà.
Tu peux te trouver belle physiquement, oui. Mais si ton corps est malade, on fait comment? Qu'est-ce qui est plus important? Avoir une belle image qui est jolie ou être bien à l'intérieur et être en bonne santé?
Voilà.
Pour pouvoir vivre beaucoup plus d'années. Moi, je n'avais pas envie de crever et laisser ma fille orpheline de mère. Mm-hmm. Ouais, tu vois, donc je ne le ferai pas au nom du body positive, encore moins au nom d'être mannequin grand taille et de faire la une des journaux, j'en ai rien à foutre.
D'accord. Et quelle a été ton expérience au niveau des téléréalités? Tu as participé à Mon Admirateur Secret en France et Black Star en Côte d'Ivoire. Ouais. Comment tout ça s'est passé?
Alors, Mon Admirateur Secret.
Ça, je l'ai vu, j'étais mort de rire. Il est où? Il est encore dans les parages ou...
Gianni, c'est un pote, ouais, c'est resté un pote.
T'es resté un pote, d'accord.
Ouais.
Ah, j'ai rigolé.
Ce qui se passe, c'est que... J'appelle Gianni. En fait, je vois Gianni. Il faut savoir que tu te rappelles le casting du truc body positive que je t'ai dit, donc du premier défilé body positive où j'étais maman.
D'accord.
Avec ma fille. Eh bien, Gianni était dans le jury.
D'accord.
Gianni est un influenceur fashion, machin, streetwear, tout ça. Et en fait, je me suis hyper attachée à lui. On a tellement fait de son travail après et on a tellement collaboré qu'en fait, je sais pas, je me suis attachée au personnage. Je l'aimais bien, ce mec. Et puis, j'avais ce petit truc qui me disait « c'est un peu compliqué parce que tu vois… » Bon, je ne veux pas choquer les gens, mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne s'imaginent pas quand ils me voient, ils se disent « mais cette meuf, elle est toujours avec des noirs, c'est une vraie négrophile. » Non, je ne suis pas une vraie négrophile. Comme je le dis à tous les gens, je suis noire dans la peau d'une manche.
C'est clair.
Et donc, les gens doivent comprendre que je n'ai jamais eu de relation, pas parce que je n'aime pas les blancs, mais parce que j'ai grandi et évolué
dans ton environnement. Ouais, c'est ça.
Donc, mon environnement était africain, donc du coup, c'est normal que ce que j'ai vu, ce que j'ai pu autour de moi, c'était des renois. Donc du coup, Gianni, je me dis un jour, je me dis, peut-être bien que je pourrais tester. Faut pas mourir con, et puis ouais, il est pas mal, il est sympa, et puis ouais, il passe bien. Puis en plus, comme c'était le genre de blanc un peu intégré dans la communauté afro, je me suis dit, ouais, lui il va manger du piment, il mangera de la chèvre, mec, c'est bon.
Il mangera du kwanga, ça va le faire.
Ça va bien passer. Et donc, du coup je ramène Gianni à mon admirateur secret et je vais pour lui déclarer ma flamme. Mais c'est genre d'émission que jamais j'aurais imaginé faire dans ce sens-là. Tu vois, je m'étais dit, si un jour je fais genre d'émission, c'est un mec qui va m'appeler, il va me dire qu'il m'a kiffé et je vais pouvoir lui dire oui ou non. Mais jamais j'aurais pensé que j'allais faire ça. Ouais. Et là, je me dis, je vois ce truc, casting, machin. Je me dis, bon, tu sais, un peu comme d'habitude, moi, les castings, c'est toujours par hasard. Hein. Je me dis, je le fais toujours pour m'amuser. Et donc, du coup, je vois casting, machin et tout. Je commence à postuler. Il contacte Gianni. Bah, quand il contacte Gianni, bah, il kiffe son personnage parce qu'il les fait marrer à fond de l'autre côté du téléphone. Moi aussi, bah, je pense qu'il se marre à fond. Et ils se disent, putain, mais les deux-là, ça va être une dinguerie. Et donc, du coup, il ramène les deux Belges parce que c'est une émission française, donc il n'y a pas trop de Belges. Et donc, du coup, il nous ramène et on fait cette émission. Et il faut savoir qu'en fait, Gianni a été super gentleman parce que ce qu'on ne dit pas dans l'émission, parce que l'émission, Gianni n'a pas tout dit. Gianni était hyper gentleman avec moi, mais je me suis trapé le premier râteau de ma life, en fait, tu vois.
Ah, d'accord, donc dès que ça s'est terminé, il t'a dit...
En fait, je veux dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans la réalité, parce que le gars donc, me dit... Ah, mais moi aussi, je te kiffe de ouf et tout.
Ah, parce que moi, j'ai vu l'émission.
Effectivement, le mec, il m'a kiffé. Mais le truc, c'est qu'il m'a dit, mais toi, tu me fais peur parce que t'es trop dans le délire love. T'es trop une fille sensible. Et j'ai appris à te connaître et t'es devenue... Genre, tu m'as exposé toutes tes peines de cœur. Et putain, moi, je suis un bad boy. Je suis un bad boy, moi je suis un mec open mind, je tire tout ce qui bouge, j'ai pas envie de te faire mal à toi quoi, meuf, imagine où ça se passe et tout, après tu t'attaches et tout, mais je veux pas te faire mal à toi. Il y a des meufs, il me dit j'en ai plein, je les pécho, c'est des filles, elles ont l'esprit ouvert, elles sont ok pour un truc de one night, mais il me dit mais toi c'est comment? J'ai dit mais non, mais Gianni, mais moi je t'aime bien, tu vois, j'ai vraiment un crush, il m'a dit mais... Ah non, mais il me dit, dis pas ça, putain, moi je te kiffe de ouf, mais je suis pas prêt pour une histoire d'amour, chérie.
Ah, mais il a été correct quand même, hein.
Ah non, il était correct de ouf, parce qu'il aurait pu me la faire à l'envers.
Ouais, il aurait pu t'afficher aussi.
Le soir même, on rentrait à l'hôtel.
Ouais.
Et il m'a annoncé la couleur directe. C'est comment tu viens, Andor? J'ai fait, mais Gianni, mais moi ce genre de truc, ça me complique. Je dis, mais... Et puis donc, du coup, bah il m'a dit, écoute, si c'est comme ça... Je veux pas que tu dormes avec moi. Dors dans ta chambre parce que je veux pas te briser le cœur. Je suis pas prêt pour ça maintenant. Peut-être que d'ici, parce qu'il digérait encore une ancienne relation qu'il avait pas encore digérée, donc il était en mode vengeance. Donc du coup bah on est resté super amis. D'accord. Et après ça il a continué à avoir ses plans cul, il m'a raconté toutes ses histoires et j'étais sa meilleure pote. Et moi j'ai eu le cœur brisé, je lui ai raconté le nombre de fois où j'avais le cœur brisé. Et donc c'est resté un super gars. Gars. Deuxième télé-réalité.
D'accord, et l'autre, ouais.
Black Stars, j'ai donc la production donc de Black Stars, la productrice qui me contacte. Elle est à Abidjan et elle me dit que en fait c'est son manager du projet qui est mon manager. Qui lui dit qu'en fait il faut absolument que je sois dedans. Alors cette émission, ce concept de Black Star, t'as checké? Oh putain, t'as checké, merde. Ils sont pas checkés. Oh merde, ok. Donc du coup, bon, on en dira pas trop. On va pas pousser les gens à aller rechercher sur Google. Mais mais du coup cette émission, c'était en gros le concept, c'était ils voulaient 27 candidats. Personnages publics qui viennent des quatre continents. Bon, finalement, on est des trois continents. Donc, il y avait des gens de l'Europe, des gens du Canada, États-Unis et des gens d'Afrique. D'accord. Donc, tous personnages publics, mais t'avais des footballeurs, t'avais des acteurs, t'avais des mannequins, t'avais ci, t'avais ça. Et donc, on nous fout tous dans la même maison. Et pendant 3 semaines de tournage, et ce qui se passe, c'est que le seul truc qu'on a en commun, c'est qu'on est tous, ambassadeurs d'associations caritatives.
D'accord.
Donc, chacun vient avec son association caritative. Et en fait, on avait des missions et on devait, pendant la journée, faire plein de missions. Et puis gagner des cagnottes pour nos associations.
Mmh.
Voilà.
D'accord.
C'est un peu ça. Et donc, du coup, je passe... je suis prise... Moi, c'était par piston.
D'accord.
Vu que c'est eux qui m'ont contactée. Mmh. Et quand elle me contacte, elle me dit « Ouais, mais est-ce que tu... » Parce que du coup, je m'entends super bien avec elle. Je parle des heures et des heures avec elle au téléphone. Et elle me dit « Mais vas-y, moi, casté. Qui tu connais comme personne que tu verrais bien dans ce truc ?» Mmh. Et donc, du coup, j'ai ramené ma sœur. Mmh. Et ma petite sœur est venue avec, on a pris l'avion ensemble, on a débarqué là-bas. Et puis arrivé là-bas, on a fait connaissance avec tout le monde. Et c'était une expérience, comment dire que moi, en fait, tu vois, tout le délire drama queen, celles qui font trop les divas, tout ça, moi, c'est les meufs, genre de la vraie télé-réalité.
Ouais.
Bah. Et en fait, il y avait quelques bimbos là qui se la racontaient en mode, qui avaient débarqué en mode bimbo, tu vois. Et,
ouais.
Et je me suis dit, putain, mais comment je vais les supporter ces meufs ici, putain, 3 semaines, je sais pas comment je vais faire, j'en ai qu'une. Et donc du coup,
t'en es arrivé aux mains ou pas du tout?
Non. Mais après, je dis ça, mais le truc c'est que je suis une personne très très passive. Et je suis assez zen, donc quand je suis dans un espace où il y a beaucoup trop de bruit, en télé-réalité, tout le monde veut faire le show en fait. Tout le monde veut être celui qui se fait le plus remarquer, tout le monde va faire le plus de drames, va créer le plus de trucs, va imposer ou créer des tableaux, juste pour attirer l'attention. Et putain, moi les drames et les boucans, je déteste. J'ai peut-être pas l'air comme ça, mais je suis hyper, je suis très introvertie. J'aime bien mon calme, mon silence, et donc du coup... dans une maison comme ça où on est autant, je supportais pas le bruit. Et donc arrivé, le premier jour j'arrive à cette télé-réalité, je commence déjà à prendre la température, je vois déjà qui je vais éviter, mais grave. Mmh. Et comme par hasard, les gens que je voulais éviter, on les fout dans ma chambre, c'est la merde. Donc du coup, je me retrouve à dormir dans le jardin la première nuit. Je veux pas dormir dans la chambre. Et je me retrouve à dormir dans le jardin avec un mec qui est exactement dans le même mood que moi. Et il supporte pas les gens, c'est un rasta, tu vois, genre hyper zen, il aime pas les gens, il aime pas le bruit, il aime pas les drames et le cinéma. Et donc en fait, on était dans le même délire, on s'est retrouvés accrochés là, en fait, on a commencé à parler le jour où je suis arrivée. Mmh. Et puis en fait, on est resté toute la nuit réveillés, et on n'a pas dormi tellement on avait des choses à raconter, puis après c'est devenu mon mec. Ouais, en fait, quand je dis après c'est devenu mon mec en 24 heures, hein. C'est la suite de la vérité.
Ah ouais. Maintenant, tu te concentres sur ta carrière d'humoriste. On peut déjà voir quelques extraits sur Insta et TikTok. Tu passes du français au lingala, franchement, c'est trop bien. Tu parles de ça comme une thérapie. Comment peux-tu expliquer que tu utilises l'humour comme thérapie?
Simplement parce que ça a vraiment été une thérapie pour moi. J'ai commencé à écrire des textes humoristiques. J'ai commencé à écrire mes propres vines, donc mes collaborations avec d'autres comédiens. J'ai commencé à écrire même une web-série qui va pas tarder à sortir. À mon avis, là, c'est parti pour... À mon avis, c'est parti pour novembre. Mmh. Ouais, parce qu'on travaille dessus depuis l'année passée et je crois qu'elle va vraiment sortir qu'en novembre.
D'accord.
Et avec Francia Cuquiel, qui est mon directeur artistique et qui est mon binôme, on va dire, en comédie au Congo. Mmh. Et on peut le dire aussi, qui est, je veux dire, le Jamel Debbouze du Congo. Hein.
D'accord.
Ouais, non, du coup j'ai la chance de travailler avec quelqu'un d'exceptionnel, d'hyper talentueux et d'hyper expérimenté. Et en fait, il m'a vraiment super bien encadré et il m'a ramené dans cette vraie bulle du stand-up, dans les coulisses de la vie du stand-up, parce que moi, je connaissais que la comédie théâtrale, et les vibes, le fait de faire des petits tournages sur le web, mais je ne connaissais pas du tout le monde du stand-up. Enfin, j'avais déjà été à quelques spectacles de potes qui sont aussi comédiens, mais je ne m'étais pas plus penchée que ça sur la question. Et en vivant au quotidien avec Roncia, purée, mais j'ai vu à quel point c'est passionnant. Et je me suis beaucoup identifiée à lui. Je me suis dit, enfin, quand on parlait de nos histoires, c'est quelqu'un qui est également très triste au fond. Bah, un peu comme tous les comédiens, on est tous un peu dépressifs. Hein. Et... du coup, en fait, lui, j'ai vu que chez lui, c'était sa thérapie. J'ai compris qu'en fait, c'était sa thérapie de... C'est ça qui l'aide à garder la tête au-dessus de l'eau, en fait, l'humour. Et quand j'ai vu à quel point ça marchait sur lui, je me suis dit, mais merde, c'est tellement passionnant. Et moi aussi, j'ai envie d'utiliser ma vie et les chapitres les plus douloureux de ma vie et les convertir en quelque chose, guérir de chacun de ces chapitres et pouvoir en faire de l'autodérision.
D'accord.
Et donc, non seulement pour me guérir moi, pour réussir à me surpasser et à sortir du problème, à le voir avec une distance et à pouvoir maintenant le maîtriser à distance comme ça. Et en même temps, je me suis dit, c'est une belle façon de pouvoir passer de beaux messages aux gens, de pouvoir les amener à la réflexion. C'est une belle façon que les gens puissent s'identifier, savoir qu'ils ne sont pas seuls à vivre les galères et les moments difficiles qu'ils vivent dans leur vie. Et puis, il n'y a pas une plus belle thérapie que de rire de choses, d'histoires auxquelles tu peux t'identifier. Quoi. Donc, moi, si je peux donner un petit moment de bonheur, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes de rire à quelqu'un sur sa journée de merde, je pense que j'ai tout gagné. Et voilà. Aujourd'hui, maintenant, je sais que c'est pas... Mes parents, ma famille ne comprend pas. Bon, déjà, ils n'ont jamais rien compris. Hein. Toute leur vie, ils ont dit que j'étais un... J'étais... Moi, selon eux, si tu les écoutes, je suis une ratée. Hein. Moi, j'ai réussi tout ce que j'ai fait. Même si c'est un peu par hasard, je pense que j'ai quand même réussi pas mal. J'ai quand même atteint pas mal d'objectifs dans ma vie. Je ne pense pas que j'aime me plaindre. Mais pour eux, en fait, tout ce que je fais, c'est jamais assez bien. Tu vois, c'est... Pour eux, c'est quel est le jour où tu vas te chercher un vrai métier.
Ouais.
En fait, ils veulent que je sois, je sais pas, je pense qu'ils auraient voulu que je sois avocate ou.
C'est l'ancienne mentalité, c'est l'ancienne. Avec le boulot, c'est quand tu finis tes études, t'as un diplôme et voilà quoi, t'es un.
Eh ben, je suis désolée.
Un employé quoi.
Parce que maintenant, je vais non seulement refaire un revirement de carrière. Mais en plus de ça, je vais parler de vous dans mes comédies, alors.
Ah ouais, merde.
Non mais ils vont kiffer la surprise parce qu'ils savent pas encore. Enfin, ils ont entendu des bruits, hein, ils savent que. Parce que pour l'instant, on parle pas trop. D'accord. Ils comprennent pas trop mes choix actuels. Mais ils ont entendu des bruits de ce que je suis en train de préparer. Ils savent que quand je fais les choses, je fais pas les choses à moitié. Donc ils s'imaginent que ça va faire beaucoup de bruit. Maintenant, beaucoup de bruit avec leur nom. Je suis pas sûre qu'ils apprécient. D'accord. Mais bon, ils vont s'y faire et puis c'est tout.
Voilà. On va passer à la question. Où étais-tu quand tu as réalisé que tu avais besoin d'aide pour te sortir de ton addiction ?
Alors, figure-toi que j'étais dans ma cuisine en train de préparer un pondou. Et que j'étais au phone, en appel vidéo avec mon meilleur pote.
D'accord.
Et j'avais passé 3 jours à essayer de me remettre d'une de mes dernières grosses fiestas qui a duré 3 jours.
Ok.
Et j'étais très épuisée physiquement, mentalement. J'étais au bout de ma vie. Et j'ai eu mon meilleur pote. Et mon meilleur pote était à ce moment-là en détox. Et depuis quelques semaines, il me disait que ça serait bien que je vienne le rejoindre et tout. Et je lui disais, mais non, moi, j'ai pas besoin de ça, putain. Je suis pas à ton niveau, tu vois. Toi, t'avais besoin de ça parce que toi, t'avais un autre niveau. Mais moi, je peux arrêter toute seule, tu vois. Et donc, je me mentais, comme je me suis mentie pendant 20 ans, d'ailleurs. Et puis là, en parlant avec lui, j'ai eu ce moment, j'ai eu ce tilt. Et je me suis dit, non, c'est bon, je vais sortir de ma zone de confort et... C'est maintenant ou jamais. En plus,
lui, il est là. Et c'était quand, ça ?
C'était exactement... tu comptes, hein, il y a 3 mois.
Il y a 3 mois, d'accord.
Ouais. D'accord. Et donc, j'ai pris l'avion une semaine après. Et était au mois d'avril, voilà. Alors, j'avais l'anniversaire de ma fille qui était le 5 mai. Donc, ce que j'ai fait, c'est... Je suis d'abord venue... parce que là, je suis au Danemark. Mmh. En pleine thérapie chez Narconon Europe.
Comme ça,
j'ai pas été payée pour le placement de produit, mais bon, voilà. Je négocierai cela avec eux. Et donc, du coup... Je suis venue, j'ai pris l'avion, mon meilleur pote, bon, il pouvait pas nous garder tous les deux en même temps parce que du coup j'aurais pu être une influence pour lui pour le faire passer de l'autre côté. Donc on a dû attendre que lui termine pour qu'on puisse même me faire rentrer. Donc je suis d'abord venue visiter, j'ai regardé l'endroit, c'est un endroit fabuleux, c'est paradisiaque. Et je me suis dit, waouh, that's what I need. Like, c'est en plein milieu de la nature, il n'y a rien, tu pourras bien te développer, il y a une salle de sport, il y a un lac juste en face de nous. Et je me suis dit, ça va être génial. C'était très difficile de prendre la décision parce que c'est quand même, tu te retires pendant entre 4 à 6 mois.
D'accord.
Donc, tu mets une pause à ta vie au moment où, au moment où moi, pour l'instant, à ce moment-là, j'avais plein de contrats qui commençaient à débarquer sous mon nez, plein de propositions, de collaborations et tout ça. Et je me suis dit, putain, mais c'est le moment où ça commence à chauffer pour toi ici que tu vas te barrer, mais tu vas tout rater, en fait. Mm-hmm. Mais en fait, je me suis dit, non, il faut savoir sacrifier... Il faut savoir sacrifier le peu que tu crois que tu as pour pouvoir reculer en arrière et te donner la chance de guérir. Alors, quand tu guéris de tes addictions, tu ne te guéris pas que de ton addiction à la drogue, à l'alcool ou à whatever ton addiction, ça peut être la pornographie ou ça peut être n'importe quoi. Tu viens, tu te guéris non seulement à ton addiction, mais aussi à tes traumatismes qui t'ont poussé vers ces addictions. Donc, en fait, en gros, je pensais que je venais juste me guérir... de mon addiction à la cocaïne, parce que j'ai fait 20 ans de consommation, ce qui n'est pas rien, hein. C'est un peu plus que la moitié de ma vie.
Bah ouais, c'était ma prochaine question, mais voilà quoi.
Ouais, ouais, j'ai fait le calcul, hein. J'ai 38 ans, j'ai commencé la cocaïne à mes 18 ans. C'était pas ma volonté, on me l'a foutu dans le verre, on m'a droguée, puis on m'a violée. Donc je le dis de manière très légère comme ça, parce que bon, ben, quand t'as fait une thérapie, tu peux en parler de manière simple. Mais je ne l'ai pas toujours pris aussi bien. Donc, la première fois, c'était comme ça que ça s'est passé pour moi. Et on m'avait fait consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup de drogue. Cette première fois, sous GHB. Et en fait, après, j'avais la haine sur la personne qui m'avait violée, qui m'avait fait ça. Et donc, j'ai porté plainte. La personne est en prison. Elle a fait 3 ans de prison. Mais entre-temps, j'avais déjà goûté. J'avais déjà vu l'effet que ça m'avait fait. Et... j'avais aimé le fait, je devrais pas le dire, hein, mais je suis quelqu'un de très cérébral et j'avais aimé le fait que ça développait et ça développait ma créativité. Je réfléchissais, mais à une vitesse, mais t'as même pas idée. Mmh. Et mon cerveau, il partait dans tous les sens. Et en fait, j'avais kiffé cette adrénaline d'hyperactivité cérébrale, en fait.
D'accord.
Donc c'était la fois de trop, en fait. Et après ça, je me suis retrouvée dans des situations où j'ai eu des amis qui consommaient devant moi et puis voilà. Puis au début, je voulais pas prendre devant eux, mais je me rappelais que ça m'avait, que la cocaïne m'avait enlevé l'effet de l'alcool, parce que quand t'es sous alcool, tu peux t'affaiblir, tu vois, tu peux être vite stone, tu peux vite tomber. Bah en fait, la cocaïne rendait tellement réveillé que malheureusement à ce moment-là, j'avais kiffé ce truc-là, le fait que ça annulait l'effet de l'alcool et que ça me gardait réveillé. Et je me rappelais de ça, mon subconscient se rappelait de ça. Donc le jour où j'étais avec des amis qui consommaient, je me suis dit, ah, mais tiens, pourquoi pas? De toute façon, j'ai déjà goûté, je vais pas mourir. Et en fait, c'est voilà. Là, des fois de trop. Et après, tu pars dans 20 ans. Si t'es quelqu'un qui a des traumatismes, qui a des douleurs à l'intérieur, qui a vécu plein de trucs, qui a le cœur chargé, qui a plein de trucs que t'as gardé dans les tiroirs, c'est vraiment pas le truc qu'il faut tester. Enfin, je veux dire, pour n'importe quelle chose, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit l'herbe, que ce soit la coke, que ce soit n'importe quoi, il faut vraiment éviter, quand tu es quelqu'un qui est chargé émotionnellement, de même goûter.
Ouvrir des portes.
Toi qui peut t'enlever de la sobriété, tu vois.
Et il te reste combien de temps là-bas?
Alors, il me reste actuellement encore plus ou moins 6 semaines et demie cette semaine. Ça dépend de la vitesse à laquelle je travaille, parce que je fais des cours toute la journée. Hein, donc, j'ai déjà fait ma purification. Donc, en fait, ici, le programme, c'est on fait une purification physique. Donc, c'est une détox complète. Donc, on surveille donc ce que tu manges, ce que tu bois, on donne aucun médicament ici parce qu'ils ont un... Allez, tout est basé sur des vitamines en fait. Donc, il faut savoir que quand tu consommes de la drogue pendant ou des toxines, peu importe, n'importe tout ce qu'on consomme pendant toute notre vie dehors dans le monde d'aujourd'hui est fait pour nous foutre en l'air la santé. Même la mauvaise food, même la viande, même le sucre, même tout ça, c'est des toxines, c'est des merdes. Mmh. Et notre corps n'a pas besoin de ça. Et en fait, on se détruit le corps humain pendant toute une vie. Et puis un jour, il faut te détoxifier. Donc ce qu'on fait ici, c'est bon, la drogue en fait, il n'y a aucun moyen. La raison pour laquelle une personne qui est accro peut arrêter la drogue pendant 3 mois, 6 mois. Mais qu'il va y retourner de toute façon à un moment donné, même s'il avait la volonté, c'est parce que la drogue reste stockée dans les tissus graisseux. Donc en fait, je pouvais arrêter, des fois j'arrêtais pendant 2 ans, des fois j'arrêtais pendant 1 an et demi, des fois pendant 6 mois. Donc je pouvais décider d'arrêter, j'arrêtais. Mais quand je décidais de reprendre parce que j'avais un traumatisme, donc je sais pas moi, genre quelqu'un de la famille qui tombe malade,
un stress, quelqu'un quoi.
Qui décède. Ma relation, j'ai une rupture. À chaque fois que j'avais un choc émotionnel, le premier réflexe c'était directement, je dois appeler mes copines, et c'est toujours des copines toxiques. Hein. Je dois appeler mes copines, je vais aller boire un verre. Et puis boire un verre, tu sais que ça va se terminer par 3-4 bouteilles de champagne ou des bouteilles de vodka à 10h du matin quelque part. Tu sais qu'après 2 verres d'alcool, tu vas devoir avoir besoin de tes rails de coke. Parce qu'il faut que tu oublies ce choc que tu as eu. Et en fait, c'est ce réflexe que j'ai développé toute ma vie. C'était dès qu'il y a un choc émotionnel, je dois l'étouffer quelque part avec de la drogue. Avec de l'alcool, avec de la drogue, avec des sorties, avec beaucoup de bruit. Je dois me distraire un max pour ne plus... Parce que j'étais trop faible pour accepter de confronter toutes les douleurs. J'avais jamais appris, j'avais jamais eu un mode d'emploi pour affronter les douleurs, faire face, être présente et traverser. Et petit à petit m'en guérir avec le temps, tu vois. Donc comme toute ma vie j'ai fui, il fallait que je trouve que je puisse tomber sur un programme qui allait m'apprendre finalement, qui allait non seulement me détoxifier mais qui allait aussi m'apprendre des nouveaux mécanismes en fait, hein. Qui allait me guérir de mes anciens traumatismes mais qui allait aussi m'apprendre de nouveaux mécanismes pour me préparer à ma vie d'après. Alors pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'il y a de spécifique dans ce programme ici, c'est que comme ce qui nous rappelle tout le temps, ce qui nous renvoie tout le temps à aller rechercher cette fameuse drogue, c'est parce qu'elle est tout le temps, elle est toujours bloquée, elle est toujours dans nos tissus graisseux. Et le seul moyen de retirer ça, il n'y a aucun médicament au monde qui va détoxifier ta graisse. Aucun. Tu peux aller voir tous les psychiatres du monde, il n'y en a aucun. Ils vont te donner encore plus de drogue en fait. Quand t'es drogué, que t'es bipolaire, que t'as des problèmes de santé mentale, les psychiatres, ils vont juste t'envoyer, ils vont juste te faire leur thérapie, leur machin, leur 12 steps and whatever. Et puis, ils vont te gonfler de médicaments qui sont encore d'autres toxines. L'industrie pharmaceutique, on sait ce que c'est. On sait pourquoi ils sont là, on sait quelle est leur mission. Et donc, en fait, c'est venir, soi-disant, te nettoyer d'une addiction pour te ramener une autre addiction après, parce qu'après, de toute façon, t'es quand même accro à leurs médicaments qu'ils te donnent, et ça te guérit pas non plus parce que tu restes dans un cercle vicieux. Donc, c'est tout ce qui était 12 steps, psychiatre, médicaments, c'est de la merde. Bon, je savais que c'était vraiment pas faire ça qu'il fallait que j'aille, et que pour m'aider, il fallait déjà me détoxifier et retirer toutes ces toxines que j'avais accumulées pendant 38 ans de ma vie. Et le seul moyen de le faire, c'est cette purification ici. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Ici on nous donne un régime hyper sain, c'est, on mange de la nourriture hyper saine, des fruits, des légumes, des plantes, des noix, machin et tout. On évite qu'on mange trop de sucre. On nous fait faire du sport tous les matins, on a du sport, du cardio. On nous donne beaucoup de vitamines, parce que quand t'es drogué, la cocaïne ou la drogue tout simplement, elle bouffe toutes nos vitamines, elle bouffe tous nos minéraux, elle bouffe tout ce qu'on est censé avoir dans notre corps pour être en bonne santé. Et quand tu as consommé des drogues pendant presque, je veux dire, la moitié de ta vie,
t'as plus rien.
Donc on doit pouvoir venir combler et remplir tous les manques, tout ce que t'as pas eu pendant des années. Donc ici on te surcharge. Je te dis, à la fin de mon sauna, j'étais à 50 pilules par jour de vitamines.
D'accord.
Au total, j'en avais plus ou moins 50. Donc on a commencé graduellement quand je suis arrivée. Et petit à petit, ils t'en donnent d'abord 3, 4, et puis tu montes graduellement de jour en jour. Hein. Et alors, on a ce fameux programme ici de purification au sauna. Donc, quand tu arrives ici, tu fais d'abord bon, le withdrawal. Donc, on va t'isoler pendant quelques jours. Ça, c'est plus... Tu vas rester plus longtemps, plus pour les gens qui sont... Qui étaient accro au crack, qui ont vraiment des douleurs physiques. Pour eux, c'est plus difficile, tu vois, de les rencontrer directement avec les gens. Voilà. Donc, on les isole d'abord. On les laisse se reposer, récupérer, parce qu'ils viennent de loin. C'est très difficile pour les gens qui avaient ce type d'addiction-là de survivre quand ils sont en manque. C'est vraiment douloureux. Ils ont des manifestations, des grosses douleurs qui arrivent. Donc, on les isole, on les laisse beaucoup se reposer, on les fait beaucoup dormir, on leur donne beaucoup de vitamines et on les nourrit beaucoup pour leur redonner de la force avant de les faire rentrer dans la deuxième step qui est... D'abord, on fait du bidder, donc c'est beaucoup de méditation. Ensuite, on nous fait aller dans la troisième étape qui est le sauna. Alors, le sauna, c'est un programme où le matin, donc, on se lève, on fait du cardio. Non, on ne fait pas du cardio. On nous donne d'abord de la niacine. Mm-hmm. Alors, grâce à la niacine, c'est ce que je disais, c'est le seul... En fait, c'est l'élément qui fait qu'on arrive à retirer et à nettoyer tous nos tissus graisseux de toutes les drogues et toxines qu'on a consommées toute notre vie. Et en fait, c'est le mélange de cette niacine. Donc, on va nous la donner, on va commencer à doser petit à petit. Hein. On va la donner d'abord, on va prendre d'abord 100 mg quand on arrive. Et puis, on va t'envoyer aller courir sur le tapis roulant. Une demi-heure de treadmill. En fait, ce qui se passe, c'est que la niacine, si tu la prends juste comme ça, okay, tu vas sentir un petit peu, après quelques minutes, que tu commences à avoir des picotements un peu partout, parce que c'est assez agressif.
D'accord.
Mais maintenant, pour qu'elle soit activée, il faut que ta circulation sanguine travaille. Il faut que ton sang tourne beaucoup.
Circule, ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que tu es sur un treadmill, quoi.
Voilà, donc ils te foutent sur un treadmill pour que dans 20-25 minutes, ton sang il circule à une vitesse pas possible. Et là, maintenant, la niacine fait son travail et les toxines peuvent être en mouvement, en fait. Tu vois, elles ont l'espace pour pouvoir bouger parce que juste après ton cardio, en fait, à un moment donné, tu es tout rouge. Après 25 minutes, 30 minutes, tu es tout rouge parce qu'en fait, la niacine est en train de faire son travail. Mmh. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu es bien, que tu es prêt, qu'on voit que tu commences à avoir des manifestations physiques, que t'es rouge ou que tu transpires vraiment ou que voilà ou que t'as peut-être des marques qui sont encore ou quoi, là on va t'envoyer dans le sauna. Et là on t'envoie pour une journée de sauna où tu fais 5 heures de sauna où tu restes aux 65 degrés et tu restes toute la journée là. Et ce qui se passe c'est que comme on a déjà activé avec la niacine et ton treadmill et ton cardio, eh bien tes toxines sont prêtes maintenant à sortir avec le sauna. Et c'est comme ça que pendant, ça dépend, on est tous différents. Il y en a qui font 21 jours de sauna, il y en a, moi j'ai fait 32 jours.
D'accord.
Il y en a qui font 45. Et en fait, tu vas arrêter le programme au moment où tu n'as plus de manifestation. Il y a un montant maximal de niacine qu'on donne, donc à la fin on s'arrête à 5000 parce qu'au-dessus de cela, on estime que c'est un peu trop. De dose et ça ne fera pas plus d'effet si on te donne 6000 que si on te donne 5000.
D'accord.
À la fin, tu as fini tes 5000 et puis on continue en fait à te donner du 5000 jusqu'au moment où vraiment tu n'as plus aucun effet. Et quand tu commences, tu vois, un être humain normal, tu vas le foutre dans un sauna, après 30 minutes, c'est bon, quoi. Il a eu une overdose, il n'en peut plus, il ne sait plus respirer. Nous, on arrivait à tenir grâce à la niacine. Sous l'effet de la niacine, on arrivait à tenir sans problème. Moi, je faisais mon yoga j'ai fait 32 jours de yoga Bikram dans le sauna.
D'accord.
J'étais très confortable. J'écrivais mes textes, j'écrivais mon livre, je faisais plein de
choses. Et là, tu restais combien de temps ?
5 heures la journée.
5 heures dans le sauna ?
Ah ouais, c'est ce que je dis, ouais, t'es à l'intérieur. Hein.
D'accord.
Et du coup, c'est l'endroit où tu vas passer ta journée, en fait. Donc,
okay.
Donc tu es là, tu bouges pas, tu fais ton sauna et les toxines sortent, mais tu supportes parce que t'es sous la niacine.
Okay.
Et à chaque fois que tu vois que voilà, tu as beaucoup transpiré, on t'envoie, tu vas à la douche, tu prends une douche froide, tu reviens dans le sauna, tu retranspires, on nettoie, on enlève tout. Et en fait, c'est comme ça que toutes les toxines sortent. Et à partir du moment où on voit que tu n'as plus aucune manifestation, parce que tu vas avoir des réalisations de fou pendant le sauna.
Ouais, mais c'est ça. Je voudrais que tu reviennes aussi, que tu expliques, tu parles de manifestation. Qu'est-ce que tu veux dire par manifestation ?
Okay. Alors, on a deux choses qui sortent. On a les réalisations et on a les manifestations. Alors, les manifestations, c'est ton corps va manifester des tu vas sentir des choses que tu, que, enfin, ton normal, tu ne t'auras pas. Tu auras peut-être des nausées. tu auras, c'est des manifestations physiques en fait, tu auras peut-être le corps qui gratte, tu auras peut-être, peut-être que tu vas commencer à pleurer, tu pleures, tu sais pas pourquoi mais tu pleures, ou t'as mal quelque part, ou t'es très fatigué tout d'un coup, ou t'as mal au ventre, t'as mal au dos, t'as mal, en fait c'est la drogue en fait qui est en train de sortir de ton corps et du coup ben, comme t'as beaucoup choqué ton corps pendant toute ta vie, bah, ton corps aujourd'hui il est en train de réagir parce que t'es en train de le faire, enfin t'es en train de faire de dégager de toutes ces toxines.
De nettoyer.
Ça c'est pour les manifestations physiques. Maintenant, il y a c'est ah ouais alors.
Après t'as parlé de réalisation.
Ouais, les réalisations, c'est en fait les manifestations vont t'aider à sentir qu'il y a un truc qui est en train de se passer en toi.
D'accord.
Et maintenant, il faut savoir que la niacine, alors ce que je vais vous raconter, ça va faire un peu flipper, mais c'est là où toute la magie se trouve.
D'accord.
Dans ce programme-ci. C'est qu'en fait, quand tu passes ta journée dans le sauna, le but de la niacine, en fait, elle va aller retirer toutes ces toxines. Mais quand ces toxines-là vont sortir, elles vont te ramener, tu sais qu'on a une banque dans notre conscience ou dans notre subconscient. Donc, en fait, ça va aller nous ramener à une époque, à une journée, un événement où on était sous cette drogue. Donc moi, par exemple, j'ai revécu un délire parce que j'avais goûté des... En fait, ici, tu vas ressentir tout. Tu peux ressentir une grosse piqûre au niveau de la dent. C'est une anesthésie. Donc, il va ressortir l'anesthésie que tu avais eue, je sais pas moi, le jour où tu t'es fait arracher une dent.
D'accord.
Moi, j'ai senti ma péridurale, la péridurale de mon accouchement. Je l'ai sentie dans mon dos pendant que j'ai fait mon sauna ici.
Ah, d'accord.
Je te jure, c'était horrible, j'ai l'impression que j'accouchais une deuxième fois. j'ai eu quoi encore? J'étais fatiguée comme si je sortais d'un coma. Et là, je sais que c'est l'anesthésie de ma dernière opération que j'ai eue, de mon bypass que j'avais fait.
D'accord.
J'étais fatiguée à un niveau, mais comme une morte, quoi. Et je me suis réveillée, mais tu sais, le réveil lourd, comme quand tu sors d'une salle d'opération, quoi.
D'accord.
J'étais vraiment dans les vapes. Et donc, ça te ramène à sortir en fait toutes les toxines et ça te ramène à la manifestation de ton corps que tu avais eu au moment où cette toxine était rentrée dans ton corps. Donc moi j'ai revécu par exemple le délire de quand j'avais 14 ans, j'avais goûté des extas avec des amis.
D'accord.
C'est une journée, on avait pris de la vodka, on avait fumé des bédos, il m'avait fait goûter un exta et on avait pris la route de Bruxelles pour aller à Paris et sur l'autoroute on était dans la voiture et mais c'est un événement que j'avais complètement oublié de ma vie. Dans ma tête, je l'avais complètement oublié, il n'existait plus ce truc. Et c'est le sauna qui est venu me faire revivre ce moment. Il m'a rappelé que ce jour-là, ça s'était passé. Parce qu'à ce moment-là, cet exta ou ces extas, ou je ne sais pas, sont sortis. Et donc, ça te ramène au moment où la toxine sort, ça te fait revivre le moment. Donc, j'ai revécu le moment, mais j'étais stone dans le sauna. Et je suis dans la voiture, complètement stone, mais je suis en réalité dans le sauna. J'étais là en train de dire à mes potes, je fais vas-y, ouvre la porte, je dois vomir. Et ils me disent, mais putain, vas-y, fais passer ici, vas-y, prends le sachet. Et genre, mes potes me balancent un sachet. Et je revois le visage de ces amis en question, de quand j'avais 14 ans dans la voiture, un au volant, l'autre à côté. Et ils disent qu'ils peuvent pas s'arrêter parce qu'on est sur l'autoroute. Je leur dis de se démerder. Ils s'arrêtent sur un bord de viaduc, il y avait un viaduc comme ça. Et je revis la scène où je ressors de la voiture et où je suis au-dessus sur le pont. Et je suis en train de... Je vois le bas, en fait. Il y avait un vide. Et je vomis. Et puis, j'ai un trip parce que je suis sous extra. Et je regarde et je dis, je saute pas. Et les garçons, ils ont vu que je pétais un câble. Ils m'ont dit, putain, toi, rentre dans la voiture. Ils m'ont foutu dans la voiture. Je me suis rendormie. Ils ont conduit. Je me suis réveillée à Paris. Ils m'ont proposé de prendre des petits pains au chocolat. Mais j'avais aucune idée de cet événement-là. Il a fallu que je fasse ce sauna maintenant à 38 ans. Pour me détoxifier de la cocaïne, pour revivre ce moment que j'avais vécu à 14 ans. Donc, je suis sortie du sauna, épuisée, j'étais fatiguée, j'ai dit « Putain, j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que je cherchais à mes 14 ans? Pourquoi je voulais goûter des drogues qui faisaient mal comme ça? J'étais malade, j'avais des nausées, j'étais mal, pourquoi, qu'est-ce que je cherchais dans ma vie à 14 ans? Pourquoi ?» Et pendant que je me posais la question, boum, le traumatisme lié à la raison pour laquelle je me drogue à ce moment-là ressort. Il suffisait juste que je me pose la question en pleurant pour que toutes les scènes débarquent. Bam, je commence à voir maintenant l'inceste que mon oncle opérait sur moi quand j'avais 8 ans. Et maintenant, je revis l'inceste de mes 8 ans. Et donc, tout est lié, en fait. tout est lié. J'ai revécu des trucs horribles et je revivais l'inceste. Et j'ai expliqué à mon superviseur du sauna. Je lui ai dit, putain, il est là le connard. Il m'a mis un film porno à 2h. Il est 2h du matin. Il est venu. Il m'a demandé de sortir de ma chambre, d'aller le regarder. Il était là. Il se masturbait devant moi. Il me disait de pas regarder par terre, de pas regarder le plafond. Je vais juste le regarder pendant qu'il se masturbait. Il me menaçait. Et j'explique tout au mec. Mais parce que je suis en train de lui exprimer ce que je suis en train de revivre. Je revivais toute la scène comme si c'était maintenant. Et tout ça, bah, c'est la magie de la niacine et du truc. Mais après ça, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Je pleurais, j'ai pleuré comme un enfant, j'ai pleuré. Mais... Et en fait, c'était tellement une libération. Et c'est là où je dis qu'aujourd'hui, j'ai revécu, grâce à ce sauna, j'ai revécu non seulement... j'ai pu vivre ma détoxification pleinement et sentir vraiment... toutes ces manifestations sortir de mon corps, sentir que cette drogue sortait de mon corps. J'ai revécu parce que à chaque fois il y avait les drames qui étaient connectés à la période où je prenais telle ou telle drogue. J'ai eu des souvenirs, des trucs horribles qui sont passés et j'ai compris pourquoi j'étais aussi mal toute ma vie, pourquoi ma santé mentale était aussi complètement bousillée. Pourquoi
est-ce que tu considères que tout a commencé à partir de l'inceste
carrément. Oui, carrément. C'est le premier élément. Après, c'était une suite logique parce que j'ai dû garder un secret longtemps, de mes 8 à mes 14 ans. Je ne pouvais pas le dire parce que mon oncle était quelqu'un d'hyper violent. Et le jour où j'ai eu 14 ans et où j'ai voulu le dire à ma famille, je pensais qu'on allait me protéger. Le jour où il y a eu un drame, je me suis embrouillée avec mon oncle. Il voulait me menacer pour un truc et je lui ai dit aujourd'hui tu me fais plus peur connard. Et c'était le soir de Noël et il m'a dit quoi, qu'est-ce que tu vas faire. J'ai dit qu'est-ce que je vais faire. Je lui ai dit mais quand tu me touchais là tu savais pas que j'étais un enfant, espèce de bâtard. Et en fait il m'a dit de quoi tu parles. Et puis je lui ai dit c'est très long que je parle. J'ai pété le plomb, il y avait une bouteille, j'ai voulu prendre la bouteille, l'exploser sur la tête. Et c'est parti en bagarre générale parce qu'il a commencé à me taper, ma mère a sauté sur lui pour me défendre, ma grand-mère a sauté sur ma mère pour défendre son fils. C'est parti en bagarre générale notre Noël. Mais bon, ça c'est pas grave parce qu'on a l'habitude des Noëls comme ça chez nous. Mais c'est juste que je pensais en fait. Je pensais qu'à ce moment-là, ma mère allait faire un truc. Je pensais qu'elle allait envoyer son frère en prison. Okay. Je pensais que ma grand-mère allait envoyer son fils en prison. Je pensais qu'ils allaient me défendre parce que j'étais quand même la petite fille, tu vois, qui, je sais pas moi. Et en fait, il n'y a jamais personne qui a rien fait. On a tout fait. Moi, ma grand-mère, j'ai dû vivre avec le fait qu'à 15 ans, quand j'expose cette histoire, j'attends du soutien. Je me dis finalement, ils vont faire quelque chose maintenant que je suis libérée, que j'ai plus de poids sur moi. Ils vont m'aider, ils seront avec moi, ils vont me protéger maintenant. Eh ben non. Non, ma mère, elle a écouté les conseils de ma grand-mère. Elle n'a pas porté plainte. Ma grand-mère, elle m'a dit, tu sais, ma chérie, chez nous, on est des bantous. Le linge, ça se lave en famille. On va pas chez les blancs pour régler nos problèmes. Donc tu vas pas aller à la police pour raconter ce qui se passe chez nous. Nous-mêmes, on va régler ça. Je lui ai dit, ok, merci. Et je suis partie. Et je suis restée d'une force. J'ai dû étouffer ma douleur. J'ai dû comprendre que j'étais seule. Et tout ce que j'avais après, c'était, j'ai compris que eux, ils étaient pas là pour moi. Donc tout ce que j'avais après, c'est juste une suite logique en fait. Je cherchais de l'amour. Je cherchais de l'attention dans les relations amoureuses. Je cherchais à tout prix d'être remarquée, d'être vue. Et je pense même ma carrière, même le mannequinat, même la comédie, même le stand-up, c'est une façon de vouloir exister. Parce qu'on t'a pas laissé, on t'a pas donné l'amour dont t'avais besoin. Donc tu cherches à exister à tout prix en fait. Tu cherches à t'exprimer, exprimer ce qui t'a. Aujourd'hui, grâce à la comédie, je veux dire, je me permets de pouvoir extérioriser, de pouvoir exprimer. Toutes ces étapes qui ont été des parties de mon histoire et qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vraie thérapie pour moi.
Ok. Mais... Et est-ce que, juste pour la petite histoire, l'as-tu confronté, toi, en tant qu'adulte, après ?
Par la suite ? Mon oncle ?
Ouais.
Parce qu'après ça, il ne s'est pas arrêté à ça, bien évidemment. Il a continué. À l'époque, je les avais prévenus parce qu'il avait une fille. Et à un moment donné, son ex-épouse s'est barrée. Et elle a laissé avec deux enfants. Et donc, je voyais de loin les regards, je voyais les petits signes, je voyais le vice. J'avais été victime du même vice, donc je connaissais ses attitudes. Et je me disais, fils d'eux, pas elle. Et en fait, je voyais la scène sous mes yeux, je priais juste que ça se passe, que je suis en train de voir, en fait. mais c'était déjà ça. Et la petite, elle avait aussi 11 ans, 12 ans. Mais là, je te parle de 10 ans après, parce que c'est ma petite cousine, elle est beaucoup plus jeune que moi.
Ouais.
Et finalement, quand elle aussi, un jour, elle a pété les plombs, elle avait 15 ans, le même âge. Ou 14 ans, ou un truc comme ça, ouais. C'est le moment où elle a pété les plombs, elle était déjà victime de lui depuis qu'elle avait 9 ans. Mais lui, c'était pire, parce que elle, moi, c'était des attouchements, moi, c'était plus un abus, tu sais, sexuel, mais mental. Mmh. Moi, il m'a touchée aussi, bien évidemment, j'ai des attouchements, je veux dire, il me faisait des cunnilingus, il voulait me toucher, il voulait me laver, il voulait me masser, il me massait les parties intimes, il voulait tout le temps être celui qui allait m'essuyer, il essayait tout le temps de me toucher les parties intimes. Donc, c'était très, très, très abusif et très étouffant. Mais et surtout qu'il le faisait avec beaucoup de violence et il était très menaçant. Si tu essayais de parler, il me faisait les gros yeux. Essaye de parler, je te tue, tu vois. Et comme c'est quelqu'un qui tabassait tout le monde dans ma famille, j'avais très peur parce que j'ai grandi sous sa violence devant d'autres personnes, sous d'autres personnes. Mm-hmm. Donc je savais de quoi il était capable. Je voulais pas que moi aussi il s'en prenne à moi physiquement et qu'il me tabasse. Mm-hmm. Donc j'étais terrorisée. Et je voyais ce cinéma, je voyais ça se passer sous mes yeux. Bon, je voyais pas les scènes avec ma cousine, mais je voyais le vice dans ses yeux. Je voyais quand il lui disait mais lève-toi et danse, je me disais mais comment tu peux demander à ta fille de danser devant toi, de danser sur des chansons vulgaires comme ça. Ça te fait bander, t'es dégueulasse, tu vois. Et je comprenais qu'en fait il y avait un truc chelou. Et j'espérais juste que pas elle, qu'il la touche pas elle. Mais un jour la petite elle a pété les plombs, elle a expliqué. Elle a pété les plombs, elle a dit à sa mère, elle a appelé ma mère, ils ont appelé tout le monde, la police, machin, tout ça. Moi, j'étais en Afrique du Sud à ce moment-là, je vivais là-bas. Et ma mère m'a appelée, elle m'a dit « Est-ce que tu es assise ?» Et je pensais la mort de quelqu'un. J'ai dit « Attends, je prends une chaise. » Et elle m'a dit « C'est Sarah. » Et je lui ai dit « Oh putain, fils de pute, je le savais. Je le savais. » Elle m'a dit « Écoute, on va avoir besoin de ton aide, parce que pour qu'on puisse te garder en prison, tu connais la Belgique, hein, ils protègent les pédophiles, ils protègent l'inceste et tout ça. Donc, il va falloir que tu rajoutes ta propre déposition. Pour dire que c'est pas la première fois. La plainte de Sarah, c'est pas la première. Il l'a déjà fait il y a X années avec toi. Et qu'en fait, c'est juste que nous, on ne les croyait pas à l'époque. À cette époque-là, on n'a pas cru. Mais cette fois-ci, c'est avéré. Voilà, la deuxième fois, c'est la fois de trop. Donc, voilà, on sait que c'est vrai, quoi. Donc, fais ta déposition. On va la joindre au dossier. Comme ça, il le garde au frais. Le temps que le jugement se fasse. Et c'est là qu'on l'a gardé. Il a fait 8 ans de prison. Alors oui, l'affrontement, il y a eu, mais c'est quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, tu sais, un malade, ils n'acceptent pas que c'est une maladie et qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. S'il n'accepte pas qu'il est malade, il ne pourra jamais être aidé. C'est qu'en fait, il a envie de rester dans son vice. Il n'a pas envie de changer. Devant moi, il a toujours nié. Jusqu'à maintenant, il nie. Hein. Il peut être devant moi, il va nier, hein, comme si rien n'était. Mais je l'ai pardonné. C'est quelqu'un qui est malade. Mais je l'ai pardonné. De toute façon, voilà, il a fait sa peine, il a fait ses 8 ans. Mais après, voilà, ça a découlé sur toute une vie de mal-être chez moi, et de mauvais choix, et de ce besoin d'exister, de ce besoin d'amour chez les mauvaises personnes, d'amitié chez les mauvaises amitiés, chez les mauvais amis. Mmh. Et de là, ben, d'addiction, de, tu vois, et de mal-être, de devenir mangeuse émotionnelle, monter, descendre, tu vois. J'étais vraiment dans le mal-être toute une vie, quoi.
D'accord,
passer d'une relation abusive à une autre, accepter qu'un mec te tape sur la gueule parce que tu sais que de toute façon t'as déjà été le torchon de quelqu'un, on a déjà commencé à tripoter quand t'avais 8 ans, donc t'es le déchet de la société. N'importe quel mec peut venir aujourd'hui jouer avec toi, te parler n'importe comment, te tabasser parce que de toute façon depuis que t'as 8 ans t'étais déjà le déchet de quelqu'un qui s'amusait sur toi. Donc tu crois vraiment à ça, tu vois, c'est le genre de choses qui t'arrivent quand t'as 8 ans et ça t'impacte toute ta vie. C'est horrible. Et aujourd'hui, bon voilà, Dieu merci, grâce à cette thérapie que je suis en train de faire, c'est une vraie libération pour moi parce que c'est pas seulement ma détoxification physique, c'est une détoxification mentale, spirituelle, mais à tous les niveaux. Et grâce à cette expérience, j'ai l'impression d'être renée en fait. C'est une nouvelle naissance. Je suis née de nouveau.
En fait, c'est une déconstruction pour une reconstruction, quoi.
Ouais, j'ai l'impression que c'est la petite gamine de 8 ans qui a une nouvelle chance de vivre.
D'accord.
C'est vraiment ça. J'ai la nouvelle chance de vivre, sauf que j'ai un peu plus que 8 ans. Mais, mais aujourd'hui, si tu me demandes quand je suis née, je vais te dire que je suis née le 24. Je suis arrivée ici le 24 mai. Donc, je suis née le 24 mai 2022, en fait. C'est le jour où je suis venue pour ma nouvelle vie, où je suis rentrée dans ce centre pour ma nouvelle vie. Donc, ouais.
Ah bah c'est bien.
Il y a à peu près 2 mois et demi.
Quel est ton film préféré de tous les temps et pourquoi?
Eat, Pray and Love.
Ah là, tu m'as répondu tout de suite. C'est bien, tranquille, bien.
Oh non, parce que ça, c'est... moi, c'est pas compliqué parce que j'aime pas les films. En fait,
d'accord.
J'ai Eat, Pray and Love que je regarde en boucle toute ma vie, tu vois.
D'accord. Ça, c'est avec... avec
Julia Roberts.
Cindy... comment?
Julia Roberts.
Julia Roberts, ouais, Julia Roberts, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai jamais vu ce film, j'ai beaucoup entendu parler de ce film, mais je l'ai jamais vu. C'est quand, mais... c'est quand elle quitte les États-Unis, elle va en Inde ou je sais pas, un truc comme ça, c'est ça?
Elle fait le tour en fait, elle va en Italie.
Ouais,
D'abord, ouais, elle va en Italie, et puis elle va en Inde, et puis elle se retrouve à Bali. À Bali, elle tombe amoureuse d'un. En fait, elle vit, elle, d'abord, elle est mariée, puis elle se retrouve. En Italie, ben, elle a une première aventure parce que dans son mariage, elle n'était pas heureuse, elle n'était plus amoureuse du mec et bon, c'était un mariage pour être un mariage quoi. Et toute la magie était partie, donc elle était vraiment malheureuse parce que la meuf, c'est une fille, elle est hyper libre et son mari, c'est le mec, tu sais, carré entre quatre murs, tu vois, qui va jamais bouger, qui a besoin de sa stabilité, tu vois. Et donc en fait, elle se reconnaît pas dans cette vie et elle a besoin d'aventure, elle a besoin de courir, elle a besoin de vivre pleinement la vie. Et elle est un peu comme moi en fait. Et donc du coup, bah, avec le mec ça va pas, elle divorce, elle perd tout. Elle perd tout la nana et puis elle va en Italie. Bon, je vais pas spoil le truc, mais bon, bref, elle va en Italie vite fait, elle va en Inde vite fait. Et d'accord. Puis elle va à Bali et là elle rencontre un putain de Brésilien. Ok, j'ai tout spoilé. Non, mais elle va à la recherche d'elle-même et c'est une histoire magnifique parce que je pense que c'est un résumé de la vie de tout le monde en fait. On peut tous s'identifier à cette histoire parce que je pense que toute notre vie on se cherche. Toute la vie on est à la recherche de quelque chose, de quelqu'un qu'on est à l'intérieur. Ouais. On est à la recherche de la guérison d'un enfant blessé et de l'épanouissement. Mmh. Tu vois, de savoir de comment trouver une vie, comment trouver une vie ou ta mission de vie qui va être alignée avec l'être que tu es vraiment par rapport à ton histoire. Mmh. Et donc c'est un film que tout le monde devrait voir, je pense.
D'accord.
Super thérapeutique.
D'accord. Et ta chanson préférée de tous les temps? T'as mouvé, t'étais dans le jet set, t'as bougé, y a sûrement une chanson qui te rappelle des beaux moments. Hein?
Eh ben, franchement, je vais vraiment te décevoir, mais en fait, j'aime que deux types de musique.
D'accord.
Soit tout ce qui est instrumental.
D'accord.
J'aime les instrumentales. Je suis pas vraiment une fan des paroles hein, en musique. Non, pas du tout. J'en ai rien à foutre des paroles, mais c'est juste la mélodie qui m'intéresse. J'aime d'accord. beaucoup la musique, la bossa nova du Brésil.
D'accord.
J'aime le jazz. J'aime la neo-soul. J'aime la rumba, la base, je suis congolaise, on représente. J'aime le seben parce que c'est une musique vivante qui donne envie de bouger, de partager avec les autres. J'aime... Et alors par-dessus tout, le truc que j'écoute tous les jours et que je chante tous les jours, c'est du gospel. Ça, c'est ma musique, ça me reconnecte, ça me donne la paix. Je sais que je ne suis pas toute seule, j'ai mon Dieu avec moi, il est partout avec moi. Et à chaque fois que j'en ai besoin avant de prier ou après une prière ou même durant la journée, n'importe quel moment, je mets du gospel. Même quand je fais mes abdos, je mets du gospel et je chante mon gospel. Donc, ouais, du gospel.
D'accord, je vais te faciliter la tâche. Imagine, je te donne $1 million, je dis, t'as 10 secondes pour choisir ta chanson préférée de tous les temps. Imagine $1 million, j'ouvre la mallette, t'as $1 million dans la mallette, t'as 10 secondes pour me dire ta chanson préférée de tous les temps, une chanson.
Alors je dirais, qu'il est bon,
3.
Ah, mais c'est bon ça, j'ai déjà, qu'il est bon de louer Dieu. Pour l'instant, il y en a une là, mais ça c'est mon son du matin. C'est Nakotia Oliboso.
Nakotia Oliboso, d'accord.
Et donc là, c'est Simian featuring Dena Moana.
on va passer à l'entretien mode. OK?
OK.
Alors, je te pose la question. S'il fallait changer ta garde-robe avec une star, ça serait qui?
Oh purée, je vais encore te décevoir. Hein. parce que franchement, s'il fallait changer ma garde-robe, je la changerais avec... Je la changerais pas avec une star, en fait. Je la changerais avec... avec... En fait, j'ai un look, il y a un truc que je kiffe. Je mettrais juste un boubou blanc.
D'accord.
Et un turban blanc. Le même vêtement que je pourrais mettre tous les jours de ma vie. Tu vois, mais un vêtement pur, un vêtement élégant, classe. Donc, juste un turban blanc, un boubou blanc, mes petites babouches, mes petits bijoux vite fait là. Voilà quoi, okay. C'est bon. Je troquerai toute ma putain de garde-robe avec juste ce vêtement-là que je mettrai tous les jours de ma vie parce que c'est tellement simple, le minimalisme, j'adore. Et c'est un look que je trouve très classe.
D'accord. Et quelle est ton époque de mode préférée? Est-ce que c'est plus les années 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000? Ou rien du
franchement,
tout.
Franchement, je trouve qu'elles sont toutes, elles sont toutes intéressantes. Mais j'avoue, la mode pas de def, là, j'aimais bien. Hein. 70, là.
Ouais.
C'était bien.
Quoi, les pattes d'éléphant et compagnie, là.
Ouais, bien.
Ouais, c'était là. Ouais, c'était bien. C'était vrai. Franchement, c'était cool. Quelle est ta couleur ou la couleur qui te va le mieux ou qui te va comme un gant?
Orange et blanc.
Orange et blanc?
Ouais, l'orange et le blanc, les deux.
D'accord. Quelle est pour toi la personne, amie, famille, célébrité qui s'habille le mieux?
Alors, en version female.
D'accord.
Ça serait Moza Bint Nasser.
D'accord. Non, elle est classe de chez classe.
Alors, elle est hyper classe. Elle est couverte. Donc, ses cheveux sont toujours sous turban. Elle est belle. Elle est élégante. Elle est couverte de la tête aux pieds, mais d'une beauté, des beaux designs. Tout en simplicité. Elle est vraiment pure. Tu la vois, tu vois une dame pure. Et c'est d'ailleurs une dame qui m'inspire énormément dans toutes les actions qu'elle fait sur Terre.
Elle fait quoi dans la vie?
Mais écoute, Sheikha, donc c'est l'épouse du Sheikh de je sais plus quel pays là.
De quel pays?
C'est un pays des Émirats là.
D'accord.
Un pays arabe.
D'accord.
C'est l'épouse du Sheikh, donc elle est magnifique. Elle fait un travail extraordinaire en termes de tout ce qui est impact dans la société. Elle fait beaucoup de conférences pour les jeunes filles, les jeunes femmes et les enfants et plein d'actions hyper positives pour la nouvelle génération. C'est vraiment un modèle pour moi. Pas seulement son look, la cerise sur le gâteau, mais elle est tellement plus. C'est une femme brillante et avec un cœur énorme. Donc c'est vraiment comme ça que j'aimerais être dans quelques années. Comme on dit, quand tu serais grande, tu voudrais ressembler à qui? Et ben moi, je voudrais être comme elle. Voilà.
D'accord. Ah ben c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir?
Oh, bah écoute, on peut me souhaiter beaucoup de réussite. On peut me souhaiter de continuer à rester aligné avec l'être que je viens de découvrir. On peut me souhaiter de continuer à me développer.
D'accord.
À grandir en sagesse, de briller. De pouvoir être utile au monde, pouvoir impacter positivement la vie de... On est combien sur Terre? 8 milliards? Presque. Si je pouvais déjà... je vais être... je vais pas être optimiste. Hein. On va dire si je pouvais impacter 1 milliard, ce serait déjà pas mal sur les 8.
D'accord.
Différentes façons. Si je peux le faire en les faisant rire, juste ça. Ne fût-ce qu'une fois, avant qu'ils meurent, que je puisse leur faire rire, ça me ferait plaisir. Si c'est pas ça, peut-être à travers un livre que j'écris, peut-être qu'à travers une conférence à moi sur laquelle ils vont tomber, peut-être une vraie rencontre, on va pouvoir partager ensemble. Mais je veux vraiment pouvoir toucher le cœur des gens et apporter une transformation au moment où on est en connexion, que ça soit une vraie connexion, une connexion virtuelle ou un message que je leur ai passé qui a touché leur cœur. Juste ça,
Ça serait beaucoup, 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 beaucoup. Les millions, j'en parle ou pas? Parce que si on doit aller sur le secteur financier, bon, tu peux aussi y aller.
Ouais.
Quelques centaines de millions, ça serait pas mal en conséquence de tout le bien que je vais faire sur la planète Terre.
Ouais, ouais, c'est pas mal en retour.
Ouais, ça serait pas mal. C'est même pas pour moi en fait, hein. C'est même pas pour moi parce que moi je m'en fous, moi je sais que je vais pas tarder à crever. On dit souvent les mauvaises herbes ne meurent jamais, mais je pense que je vais pas tarder. Donc ça serait pour mes enfants, et même si ça serait pour mes enfants, ça serait pour mes enfants, mais je leur donnerai l'instruction de pouvoir donner ça et faire du bien pour les autres avec ce que je leur laisse. Ouais. C'est pas juste pour eux, pour dépenser ou pour construire des immeubles, non. Je pense que la plus belle leçon, ce qu'on peut, on est ici pour donner, pour aider aux autres. Même si je leur laisse, c'est pas spécialement pour eux. Je crois que le plus bel héritage qu'on peut laisser à un enfant, c'est des belles valeurs morales. Et quelques centaines de millions. Le plus beau cadeau que je leur laisse, c'est la sagesse morale de leur dire apprenez à redistribuer ces quelques centaines de millions et à faire du bien. Je crois que c'est le plus beau cadeau, parce que c'est ça qui va vraiment leur apporter du bonheur au fond. C'est pas le dépenser, c'est pas compter leurs millions ni leurs immeubles, on s'en fout de ça. Ça vient, ça part.
Effectivement. Vanna, merci.
Puis écoute, merci à toi.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
C'est déjà fini. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et merci, merci, merci beaucoup à Vanna. ALP, ALP et encore une fois, ALP. Abonnez-vous, likez et partagez. Je répète, abonnez-vous, likez et partagez. Lâchez-moi 5 étoiles si vous êtes sur Apple Music ou un commentaire si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast, donc je compte sur vous. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast@gmail.com. Donc, à chacun son histoire, mais quelle histoire ! À vous de le découvrir dans le prochain épisode. Très très bientôt. Restez branché. ALP.